Espace public, Couleur FM, Thierry Borde, bonjour.
Chose promise, chose due, je vous propose cette semaine la suite de notre voyage au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ce tout petit pays très pauvre, c'est l'un des 10 pays les plus pauvres au monde, a vécu il y a bientôt 2 ans une insurrection populaire, une sorte de révolution tranquille. Depuis, peu à peu, des processus démocratiques s'imposent. La démocratie cherche ses bases et donc le journalisme, son pendant naturel, cherche lui aussi à se construire, à développer ses pratiques. Pour mieux comprendre ces processus, nous avons cherché à rencontrer des acteurs de la profession sur place. La semaine dernière, Francis Viailly de l'association Reporters Solidaires, Abdoulaye Ouattara, notre collègue de Bobo Dioulasso et Gezouma Senogo, le président de l'association des journalistes burkinabés, nous ont dressé un premier tableau. Le pays a adopté des lois qui lui permettent aujourd'hui d'occuper un meilleur rang que la France dans le classement de l'organisation Reporters sans frontières pour ce qui concerne la liberté de la presse. Cette liberté, toutefois, doit être gérée, et notamment par des processus de formation à l'adresse des journalistes qui se doivent d'exercer leur métier dans le cadre de règles professionnelles, légales et déontologiques. La formation des acteurs de la coopération internationale s'en préoccupe. C'est le cas par exemple de nos confrères de Reporters Solidaires avec qui nous sommes partis faire ce voyage. La régulation, c'est notamment le rôle du Conseil supérieur de la communication, l'équivalent de notre Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est pourquoi nous avons rencontré Félix Cambiré, le délégué régional du Conseil supérieur de la communication pour la région ouest du Burkina. Nous l'écouterons afin de terminer ce rapide tableau de la situation médiatique au Burkina Faso. Ensuite, nous partirons vers le Mali, le pays voisin, et en particulier vers Tombouctou. Tombouctou, cette ville magnifique patrimoine de l'UNESCO, est détruite, mise sous le joug des troupes armées d'Al-Qaïda pendant des années. Aujourd'hui encore, le territoire pourtant libéré reste le théâtre d'une situation extrêmement tendue où personne n'est jamais à l'abri d'une attaque ou de représailles de ces groupes armés. C'est dans cette situation que Al-Husseini Al-Hadji exerce ses fonctions de journaliste et de directeur de Radio Djamana. Comment vit un journaliste local dans une situation aussi tendue? Comment réussir à informer quand certaines informations peuvent vous tuer à coup sûr? Le courage de notre collègue malien est aujourd'hui encore pour moi une leçon extraordinaire de journalisme qui m'a rappelé la rencontre que nous avons faite il y a quelques mois dans cette émission avec des journalistes syriens qui continuaient à informer à Alep sous les bombes. Voilà, après cette découverte de l'univers journalistique burkinabé et un peu malien, nous terminerons ce petit périple loin des questions de médias à la rencontre simplement d'un groupe de femmes burkinabées qui ont décidé de prendre le destin de leur village en main. Mais pour commencer, retrouvons Félix Cambiré, le délégué de la région ouest du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso.
Félix Cambiré, je suis le délégué régional du Conseil supérieur de la communication pour la région de l'ouest, avec pour compétence la région de la boucle du Moul, avec pour chef-lieu Dédougou, la région du sud-ouest, avec pour chef-lieu Gawa, la région des Cascades avec pour chef-lieu Banfora et la région des Hauts-Bassins avec pour chef-lieu Bobo qui abrite le siège de la délégation régionale de l'Ouest.
Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle exact du Conseil supérieur de la communication que vous représentez dans ces régions?
Permettez-moi juste d'en faire un petit rappel. Alors le Conseil supérieur de la communication a été créé en 1995. C'était la volonté des autorités de réguler un peu le secteur de l'information. C'est pourquoi en son temps, il avait pour appellation Conseil supérieur de l'information. Mais à partir de 2001, les nouvelles missions du Conseil supérieur de la communication lui ont doté des prérogatives qui couvrent tous les domaines de la communication. Donc à cet effet, l'appellation a mué pour donner Conseil supérieur de la communication. Alors, ce qu'il faut aussi noter, qui a été peut-être une décision importante au niveau institutionnel, c'est la constitutionnalisation du CSC. Donc, il quitte désormais le statut d'une autorité administrative indépendante à une institution indépendante constitutionnalisée.
Alors, et justement, le champ de la communication pour le CSC, qu'est-ce que ça recouvre?
Le champ de la communication, ça nous ramène aux différentes missions qui nous sont assignées. Alors, nous touchons un peu la régulation, la régulation au niveau de la presse écrite, la régulation au niveau de la radiodiffusion sonore et audiovisuelle, la régulation au niveau des médias en ligne et naturellement la mise en œuvre des lois régissant les domaines de la publicité.
Alors quand vous dites régulation, ça veut dire autorisation de publier, d'émettre? Ça veut dire fréquence?
Oui, alors ça veut dire fréquence, parce que pour ce qui concerne les fréquences, alors vous êtes sans ignorer que les fréquences sont un patrimoine de l'État public. Donc le rôle du CSC, c'est de faire des appels à candidature, voilà, recruter des promoteurs, voilà, qui présentent un bon projet. Voilà, on octroie les fréquences sur la base d'un cahier de charges et à cet effet, voilà, on signe des conventions avec les promoteurs de médias pour des durées, pour une durée de 10 ans renouvelable. Donc ça, c'est au niveau de la radiodiffusion. Au niveau de la télévision également, c'est la même chose. Voilà, on attribue les fréquences, mais les fréquences sont dégagées par l'ARCEP, Autorité de Régulation de la Communication Électronique et Postale. Bien, ensuite, au niveau de la presse écrite, alors on n'attribue pas d'autorisation pour ce qui concerne la presse écrite. Alors, nous, nous assumons juste le contrôle du dépôt légal, voilà, après autorisation, voilà, admise par le procureur, naturellement, pour ce qui concerne la déclaration d'existence. Bien, alors, pour ce qui concerne les radios, par exemple, nous contrôlons le contenu. Nous contrôlons les questions relatives au pluralisme, à l'équité. Ensuite, pour ce qui concerne les radios religieuses, les radios confessionnelles, voilà, ok, nous contrôlons un peu, voilà, le poids de certaines émissions hors religion. Voilà. Et ensuite, voilà, nous contrôlons naturellement la publicité, le contenu de la publicité, conformément à la loi qui est en vigueur. Bien. Ensuite, notre domaine de compétence aussi nous amène au niveau du contrôle de la presse en ligne. C'est vrai, on dira, oui, le CSC aussi se met en phase avec les évolutions technologiques. Donc, ce qui nous amène, voilà, à suivre un peu le contenu de tous les médias qui sont en ligne. Bien, mais permettez-moi de rappeler, alors, que dans le cadre de nos prérogatives, nous avons une mission régulière, routinière, journalière, voilà, en période normale, et la loi aussi nous confère le contrôle de la campagne médiatique en période électorale. Donc au moment où je vous parle, alors tous les passages des partis politiques dans les médias, c'est le casting a été fait par le Conseil supérieur de la communication à travers la loi des quotas, de l'équilibre, de l'équité, voilà, de la transparence.
Alors quand vous dites une mission de contrôle sur les contenus, ça veut dire que s'il y a des contenus qui transgressent la loi, par exemple, vous pouvez avoir un pouvoir de sanctionner les médias?
Alors, bien, c'est vrai qu'on n'aime pas trop le mot « sanction », parce que ça nous amène parfois en porte-à-faux avec le monde des médias. Voilà, mais ce que je puis dire, voilà, c'est que nous avons plus une mission d'éducation, une mission d'accompagnement, plutôt qu'une mission de sanction punitive. Mais il nous arrive par moment d'attirer l'attention de certains acteurs de médias pour ce qui concerne les contenus ou lorsque c'est des horaires à répétition, ça nous amène parfois à faire des mises en demeure, à attirer l'attention, ainsi de suite. Mais sinon, notre rôle, c'est l'accompagnement, attirer l'attention, encadrer. Donc, encadrer, ça veut dire en application avec les textes en vigueur. Ça veut dire les questions relatives à la déontologie, les questions relatives aux bonnes pratiques, voilà, les contenus conformément, comme ce que je venais de dire, aux lois.
Et comment est composé le CSC? Par quelle personne est-il composé?
Alors, au niveau du CSC, vous avez le collège de conseillers qui est composé de 9 membres. Okay, qui sont élus des différentes corporations et des membres qui sont choisis par la présidence du FASO, le Conseil constitutionnel de l'Assemblée nationale. Donc c'est l'ensemble de ces corporations et des acteurs choisis par ces institutions qui élisent le président du Conseil supérieur de la communication et après qui est nommé, voilà, par Conseil des ministres. Donc le président du CSC est élu par ses pairs. Bien, donc ça c'est le collège de conseillers qui est l'organe de décision, qui est l'organe de délibération. Et maintenant, vous avez une administration qui accompagne le collège des conseillers, qui est constitué de juristes, de journalistes, de communicateurs et des agents, qui sont des agents d'accompagnement, voilà, pour la mise en œuvre de la politique du mandat du conseil qui est de 5 ans non renouvelable. Donc tous les membres du collège, le président plutôt du CSC n'a pas un mandat renouvelable. Voilà, c'est 5 ans non renouvelable.
Ce qui assure son indépendance finalement.
Oui, qui assure une parfaite indépendance. Alors, et cette indépendance, chose paradoxale, il a fallu attendre 20 ans, il a fallu attendre l'insurrection, tout, pour voir une institution totalement indépendante, crédible, qui a su assumer son rôle à travers ce que vous connaissez sans doute, la rédaction du code de bonne conduite où tous les acteurs se sont engagés et qui devenait le document référentiel, voilà, qui a orienté la bonne conduite des élections. Voilà, donc dans nos missions, c'est bon aussi de les rappeler, outre les missions de contrôle, de régulation des trucs, on a une mission de renforcement et d'ancrage de la démocratie. Voilà, c'est pourquoi au moment où nous sommes, nous avons lancé une campagne d'éducation aux médias, nous avons lancé une campagne de renforcement de la décentralisation et nous investissons un peu dans toutes les actions allant dans le sens du renforcement de la démocratie.
Et ici, dans votre délégation régionale, finalement, vous avez à peu près combien de médias sous votre juridiction ?
Il est bon de rappeler que alors, l'organe central a jugé opportun, okay, d'ériger deux délégations régionales. Nous avons la délégation régionale de l'Est, avec pour compétence la région de l'Est, la région du centre-est et la délégation régionale de l'ouest qui couvre quatre régions. La boucle du Mouhoun, les hauts bassins, les cascades et le sud-ouest. Donc, pour ce qui concerne la délégation régionale de l'ouest, alors nous avons à peu près voilà, une trentaine, une cinquantaine de médias sous notre coupe. Que ce soit les radios, les télévisions et la presse écrite.
Jamayamani alai, ame Nilome, Nadaya, Yagona, Jamaya Mani Alai, Ame Bilo, Antisinilone, Ibi Elemoro Dola, Onakilema Sabunuma, Dunya Vigili. Kima sini suma dunya bekendi Dabe sangala lo mino Dabe dengwini lela dunya bekendi Nana yo nyongo na Kema ya mani ala
Vous êtes bien sûr Couleur FM. Victor Démé, le chanteur burkinabé qui nous a quittés l'année dernière, vient de nous accompagner sur la route de son pays. Avant lui, nous étions à Bobo Dioulasso avec Félix Cambiré, le délégué du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Nous restons à Bobo Dioulasso, mais pour mieux partir vers le Mali voisin, pour un entretien avec Alousaini Aladji, le directeur de Radio Djamana à Tombouctou, où le métier de journaliste, même dans une radio communautaire, reste un exercice à risque. Et oui, nous sommes toujours à Bobo Dioulasso. Alors Bobo Dioulasso, c'est toujours au Burkina Faso. Et le Burkina Faso et Bobo Dioulasso, c'est vraiment pas très loin du Mali. Et dans le cadre de la formation de reporters solidaires qui a lieu ici, eh bien, il y a des jeunes journalistes maliens qui sont venus pour se former au journalisme, et dont Alousaini, qui est avec nous. Bonjour Alousaini.
Bonjour.
Alousaini, tu es journaliste, mais pas seulement journaliste, tu es directeur de la radio Djamana. La radio Djamana, c'est à Tombouctou. Explique-nous, qu'est-ce que c'est Radio Djamana ?
Radio Djamana, c'est en fait le nom, vient du Bambara. Djamana qui veut dire le peuple. Djamana, c'est la 8e station du réseau FM Djamana, qui vient de la coopérative culturelle multimédia Djamana, créée en 1986. Donc ce réseau a été créé pour valoriser les langues africaines, pour valoriser notre terroir. Donc voilà, et la radio Djamana, je le disais, c'est la 8e station de ce réseau qui a été créée le 27 mars 2000. À Tombouctou. Donc il y a 11 radios Djamana au Mali, Tombouctou est la 8e station. Donc Radio Djamana Tombouctou aussi, au-delà des autres radios, essaie de se conformer à la réalité du milieu. C'est-à-dire nous faisons les émissions en fonction de la réalité du milieu. Vous savez que notre milieu est en majorité analphabète, composé d'agriculteurs, de pêcheurs, d'éleveurs. Donc nous essayons de faire des émissions à leur endroit, des émissions qui puissent faire en sorte que ces auditeurs-là puissent s'approprier la radio pour faire de cette radio la leur. Donc c'est comme ça que nous travaillons là-bas.
Alors c'est typiquement ce qu'on appelle une radio communautaire, une radio qui informe et à la fois qui éduque, qui sensibilise la population, et afin de lui permettre de savoir plus, d'être mieux éduqué, d'être mieux formé sur des questions de santé, d'hygiène, de culture, c'est ça ?
Bien sûr, c'est une radio communautaire, une radio de proximité, comme on aime le dire. Et je le disais que, en fait, 85% des émissions que nous faisons, c'est des émissions qui sont faites intégralement en langue locale. Le Sorai, le Tamashek, l'Arabe, puisque c'est ces langues-là que ces populations-là comprennent beaucoup. Or, à la radio, pour se faire comprendre, il faut quand même parler la langue du milieu. C'est vrai, souvent, on utilise le français, on utilise le français pour un public restreint, mais pour qu'on puisse se faire comprendre, il va falloir qu'on utilise les langues locales, le swaraï, le tamashek et l'arabe. Et donc, la grille de programme aussi, la grille de programme que nous faisons, c'est une grille de programme qu'on fait aussi en consultant les auditeurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Et surtout, il y a des auditeurs qui nous disent souvent, on a besoin d'émissions de santé, on a besoin des émissions qui parlent d'agriculture, nous dire quand est-ce qu'il faut chercher les semences, quand est-ce qu'il faut faire ceci, quand est-ce qu'il faut faire cela. Et les auditeurs, ils aussi, souvent, en écoutant nos émissions, ils nous appellent souvent pour nous critiquer. Donc, cela permet aussi de faire en sorte que nous avancions, parce que les auditeurs aussi font partie. Et ils ne gèrent pas directement la radio, mais ils contribuent à ce que la radio quand même puisse avancer, parce qu'on le dit, nul n'est parfait. Donc ces auditeurs aussi nous aident vraiment à élaborer nos programmes, à rendre un peu parfait nos programmes.
Donc il y a un côté véritablement participatif à ces programmes-là.
Exactement.
Et peut-être d'autant plus dans une situation particulièrement difficile que le Nord-Mali vit actuellement.
Oui, nous vivons en tout cas une situation particulièrement difficile par rapport aux autres localités. Par exemple, un journaliste ou un animateur de Tombouctou n'a pas la même liberté d'expression que celui-là qui est à Bamako, qui est à Ségou, qui peut s'exprimer en toute liberté, qui peut parler par exemple des groupes armés, des groupes djihadistes en utilisant quels que soient les mots qu'il veut. Mais nous aujourd'hui, on doit faire attention, même en parlant de ces groupes armés, même en parlant des groupes armés, des groupes djihadistes, on les côtoie à longueur de journée. Peut-être les groupes djihadistes, on ne sait pas qui est qui, on peut côtoyer, on peut rencontrer tout de suite un djihadiste, mais on ne sait pas si c'est un terroriste ou pas. Et pourtant, on peut parler de lui à la radio, parler de terroristes, mal parler de terroristes, et qu'après ça va se retourner contre nous. Donc on est en fait confronté à ce problème, mais quand même nous continuons d'informer sans pour autant déformer l'information. C'est-à-dire, nous essayons de dire tout ce qui se passe, tout ce qui se passe, sans pour autant accuser quelqu'un, dire que celui-là a fait quelque chose qui n'est pas bon, nécessairement de s'en tenir aux faits. Donc on s'est dit que bon, si on s'en tient quand même aux faits, ça ne va pas se retourner contre nous, puisqu'on n'accuse personne. On dit juste que ça s'est passé comme ça. Et souvent aussi, il y a une anecdote, c'est-à-dire les groupes armés, mais souvent, ils veulent qu'on leur fasse de la publicité. C'est vrai, on ne leur fait pas de la publicité exprès. Mais dans notre quotidien, ce que nous faisons, nous donnons aux auditeurs comme information. Ils trouvent leur part dedans, c'est-à-dire c'est une manière de faire leur promotion pour eux, sans que nous-mêmes, ça ne soit dans cet esprit-là. Donc, le fait de donner des informations qui sont relatives aux attaques des djihadistes, là, ça ne se retourne pas contre nous. Mais lorsqu'on vient à la radio dire bon, ces gens-là, c'est des gens mauvais, il faut pas les suivre, là ça peut se retourner en fait contre nous. Mais quand même, il n'y a pas trop de menaces sur nous pour dire bon, voilà, il faut arrêter de donner des informations. Nous, très honnêtement, dans ce cadre, on n'est pas confronté à des risques. Mais quand même, le risque, il est toujours là, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui qui est qui. On côtoie tout le monde, mais on ne sait pas exactement qui peut te faire du mal. Le 17 décembre dernier, il y a un animateur, jusque-là, on ne sait pas, qui a été assassiné devant sa radio. Juste aux environs de 19h, il était assis avec deux autres amis qui ont été froidement assassinés devant la radio. C'est d'ailleurs un ami, on a juste parlé quelques heures avant son assassinat. Moi, j'étais à Bamako. Et voilà, et jusque-là, on n'est pas parvenu à connaître en fait qui a assassiné ces trois personnes-là. Jusque-là, les enquêtes ne bougent pas. Donc, Tombouctou aussi étant une petite ville, Tombouctou étant une ville qui vraiment est en train de se relever de tout ce que vous avez connu comme crise en 2012. Donc, on ne peut pas se risquer à faire certaines choses, parce que Aujourd'hui, c'est vrai, les autorités sont là, l'armée est présente à Tombouctou, mais il y a chaque fois des règlements de compte, quelqu'un peut être chez lui, on va tout de suite, on l'aboie froidement. Donc on essaie quand même de faire très attention. Récemment, moi j'ai été en Hollande au mois de mars passé, et là j'ai couvert l'audience de confirmation des charges d'Ahmed El Fakki El Mahdi, de son nom de guerre Abu Turab. Vous savez qu'Abu Turab, c'est celui-là qui a contribué à détruire le mausolée de Tombouctou pendant la crise en juin 2012. Donc il y a eu son audience de confirmation des charges là-bas. Et vous savez que bien avant qu'il n'y ait cette audience de confirmation, son groupe quand même auquel il appartient avait demandé à ce qu'on les libère contre la libération de Béatrice, la Suissesse qui a été enlevée à Tombouctou au mois de janvier. Donc vous voyez que son groupe tient beaucoup à lui. Donc à un moment, je me suis posé la question, est-ce qu'en allant couvrir cet événement, je ne vais pas un peu risquer ma peau? Et je me posais ces questions-là et à mon retour, je me posais 1000 questions. Je me dis que bon, voilà, je suis parti couvrir un événement. Est-ce que ces gens-là ne vont pas venir me chercher? Pourquoi tu as couvert cet événement? Jusque-là, je me pose ces questions. Mais je me dis que tout compte fait, il fallait faire son métier. Parce que pour la CPI aussi, c'était vraiment important qu'il y ait un journaliste de Tombouctou là-bas. Parce que... l'événement, ça s'est passé à Tombouctou. Donc c'est vraiment
symbolique. La CPI, c'est la Cour pénale internationale.
Internationale, voilà, qui m'avait invité voilà, pour couvrir cet événement-là. Parce que pour eux, c'est symbolique qu'il y ait un Tombouctien, un journaliste de Tombouctou qui vient vraiment couvrir cet événement.
Et c'est vous qui avez été choisi?
Oui, c'est moi qui avait été choisi, oui.
Alors, est-ce que, par rapport à tout ce que vous nous racontez, est-ce que ce métier, vous le faites avec la peur au ventre?
Bon, en tout cas, oui, en quelque sorte, on ne peut pas dire qu'on a toujours peur, mais il y a des situations souvent qui font en sorte qu'on a vraiment peur, parce que comme on nous l'apprend, il faut pas, même si on doit informer, il ne faut pas risquer quand même sa peau. Mais on essaie vraiment de faire très attention, on essaie de faire les choses de manière très prudente pour que ce que nous faisons, ça ne se retourne pas contre nous. Et là, on essaie vraiment de ne pas prendre parti parce que on se dit que bon, si on ne prend pas parti, là, on peut vraiment se dire que là, on est tranquille, même si ce n'est pas à 100%. Mais c'est lorsqu'on prend parti qu'on peut vraiment risquer notre peau. Parce qu'en prenant parti, c'est vraiment mettre des gens contre nous.
Ça vous arrive de devoir vous cacher après avoir fait un reportage, par exemple?
Ça m'est arrivé au moins une semaine. Je l'ai fait au moins une semaine. Je me cachais, je ne dormais même pas chez moi. Je suis avec des petits frères. Voilà. Et lorsque ça m'est arrivé de faire un reportage, je me suis dit que ça pouvait vraiment, il pouvait avoir des représailles. J'avais demandé à mes petits frères, bon voilà, je leur ai dit, ils sont deux, je leur ai dit, bon voilà, je vais dormir à tel endroit. Ne dites à personne où je suis. Et si jamais quelqu'un de suspect venait à me demander, que vous ne connaissez pas, signalez-le moi tout de suite. Bon, j'ai fait une bonne semaine, ils m'ont rien signalé, j'ai pas vu. Et à un moment même, dans ma propre radio, même mon bureau, j'ai fermé le bureau, je rentre, je ferme la porte la journée. Et la nuit aussi, à partir de 19h, l'enceinte de la radio, même la grande porte, je ferme ça. Moi, si quelqu'un qui a besoin de nous, il vient, il tape et puis on lui ouvre la porte. Si on l'identifie, bien sûr. Si on ne le connaît pas, on lui demande qu'est-ce que tu veux. Et puis s'il est suspect, là, on n'ouvre pas. Donc il fait un moment, surtout lorsque mon ami journaliste là, a été assassiné. Parce qu'en ce temps, je ne sais pas pourquoi il a été assassiné. Jusque-là, on n'est pas parvenu à savoir pourquoi il a été assassiné. Donc on se pose 1000 questions. On se dit que bon, peut-être qu'après lui, c'est nous quand même qui sommes visés. Donc là, il m'est arrivé vraiment de me cacher à cause de cet état de fait.
Vous avez quel âge, Al-Husseini?
J'ai 27 ans. Je suis né le 24 avril 1989. J'ai d'ailleurs fêté mes 27 ans. Je ne l'ai pas fêté au Mali, ça m'a trouvé en formation au Burkina, à Ouaga, le 24 avril dernier, j'étais à Ouaga, donc j'ai 27 ans exactement. Et là, cette radio, la radio Diamana, la seule radio que j'ai toujours connue d'ailleurs, je l'ai commencé à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans. Et c'est vrai, j'aimais beaucoup la radio, mais je peux dire que la radio Diamana, c'est par un pire hasard que je suis allé là-bas, bien que j'aimais la radio. Pourquoi ? Parce que c'était un soir, j'ai parti jouer au foot. Et je suis rentré à la radio pour boire de l'eau. Parce qu'il y a une jarre là-bas où les enfants viennent, ils boivent de l'eau s'ils ont soif. Donc j'étais parmi ces enfants-là à 14 ans. Je suis rentré, j'ai déposé mon ballon. Et là, j'ai pris le pot, j'ai bu de l'eau. Et après, il y a un animateur en son temps qui aujourd'hui s'est converti dans la presse écrite. Il m'a appelé comme si c'était écrit sur mon front, jeune animateur. Il m'a appelé, il me dit, il faisait une émission sur les droits des enfants. Et là, lui, il était dans la cabine technique, il était seul avec les enfants. Les enfants étaient de l'autre côté du studio. Donc il m'a appelé, il me dit, est-ce que je peux l'aider? J'ai dit, comment? Il m'a expliqué, il me dit, oh bon, voici ces enfants, je t'ouvre le micro, tu vas juste leur demander leur nom, leur provenance, est-ce qu'ils sont à l'école. En fait, il m'a listé toute une question à les poser, donc il a vu que je suis parvenu à les faire parfaitement. Et il m'a dit à la fin de l'émission, bravo, tu ne pars pas aujourd'hui, joue au foot. Et à soi, toi, tu attends le directeur. Donc, en ce temps, le directeur n'était pas venu. Il était chez lui. Donc, lorsqu'il est venu, il m'a présenté au directeur. Voilà, le directeur, il a dit que oui, effectivement, il a écouté l'émission. C'était bien. Donc, dès lors, chaque dimanche, je viens à la radio pour faire l'émission avec le gars. Et il m'est arrivé, à cause de l'amour de la radio, un moment de vouloir même abandonner l'école. De vouloir abandonner l'école un moment à cause de l'amour de la radio. Mais on m'a sauvé, comme on le dit, in extremis. Et j'étais au lycée lorsque je voulais abandonner l'école à cause de la radio. Mais comme on le dit, on m'a sauvé in extremis, on m'a amené dans une autre localité pour que je puisse étudier une autre localité où je suis pas à la radio. Donc lorsque j'ai eu mon bac quand même, voilà, je suis revenu, je continuais la radio en même temps que je faisais l'université. Pendant les vacances, je viens, je continue la radio jusqu'à ce que j'ai fini mon université. À l'université, j'ai étudié la philosophie là-bas. Je suis également un professeur de philosophie au lycée. Ah bon, j'ai arrêté il y a un an, en tout cas, d'enseigner. Donc voilà, après, lorsque j'ai fini mes études, je suis revenu en fait à Tombouctou. Et je suis revenu là-bas pour vraiment m'installer et continuer ma radio, parce que la radio, c'est vraiment une passion pour moi. Donc j'ai commencé à travailler, à créer de nouvelles idées, voilà. Et mon défunt directeur, il m'a nommé responsable de programme. Il m'a nommé responsable de programme et quelques mois après, il est décédé. Donc voilà. Et suite à son décès en novembre 2013, on m'a nommé directeur intérimaire jusqu'à ce qu'on me confirme en tant que directeur. Et deux jours après qu'on m'ait confirmé directeur, on m'a élu à Bamako coordinateur régional de l'IRTEL. L'IRTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali pour la région de Tombouctou. Donc, vous voyez, en réalité, je ne m'attendais vraiment pas, très honnêtement, à être un directeur, un coordinateur. Moi, en fait, ce pour lequel je me bats, c'est surtout le journalisme. apprendre et savoir comment il faut exercer son métier de journaliste et aussi peut-être former d'autres personnes de ma région parce que vous savez qu'à Tombouctou, beaucoup de gens veulent être journalistes mais en réalité, ils n'ont pas cette formation-là pour être journaliste. Donc, je me dis que peut-être ayant bénéficié de cette formation, de ces formations, je peux vraiment aider ces personnes-là à être des journalistes parce qu'il n'est pas aisé à chaque fois que les gens viennent d'autres pays, d'autres continents pour venir former d'autres personnes de ma localité. Donc je me dis que si moi déjà j'ai reçu cette formation, pourquoi ne pas apprendre aux autres parce que notre connaissance ne sert à rien si on ne la partage pas. Donc il faut partager cette connaissance. Donc c'est ce qui m'anime beaucoup. Donc chaque fois que j'ai l'opportunité de me former, chaque fois que j'ai l'opportunité d'apprendre un tout petit peu avec quelqu'un, je le partage également avec d'autres personnes. Donc c'est en fait mon credo.
Alors ça, c'est vraiment le principe de la transmission des savoirs. Et puis, c'est comme ça que nous nous rencontrons, parce que nous sommes là à Bobo-Dioulasso dans le cadre d'une formation journalistique. Alors, je me permets de revenir, vous parliez tout à l'heure de votre défunt directeur d'avant. Alors, ce reportage, cette interview sera diffusée sur ma radio qui s'appelle Couleur FM à côté de Lyon. Mais je crois qu'il sera diffusé aussi sur une autre radio à Lyon qui s'appelle Radio Pluriel. Et c'est un bel hommage finalement qu'on a affaire à Saïbou Traoré, qui était votre directeur, parce que Saïbou Traoré, avec Radio Djamana, collaborait énormément avec Radio Pluriel à Lyon. Et ce sera un bel hommage qu'on fera aux auditeurs de Radio Pluriel qui ont déjà entendu Saïbou Traoré à l'antenne. Voilà. Alors j'aimerais terminer avec vous, parce que je crois que le monde entier a une grande attache à Tombouctou. Même quand on n'est jamais allé à Tombouctou, Tombouctou, ça fait partie des merveilles de l'humanité, c'est le patrimoine protégé de l'UNESCO. C'est où on en est à Tombouctou aujourd'hui ?
Aujourd'hui, Tombouctou, on peut dire que Tombouctou se relève petit à petit, en tout cas de cette crise qui a commencé depuis 2012 avec l'invasion djihadiste. Je le disais en juin 2012, les mausolées qui constituent en fait l'âme des Tombouctiens, ces mausolées ont été détruits pendant ce temps. Et aujourd'hui, ces mausolées ont été reconstruits. Et grâce à l'appui quand même de l'UNESCO et de tous les autres partenaires qui s'attachent à Tombouctou. Et en février dernier, exactement le 5 février passé, il y a eu la sacralisation de ce mausolée où on a remis en fait les clés de ce mausolée aux familles gardiennes de ce mausolée-là. Donc aujourd'hui, la ville quand même se relève petit à petit de ses blessures, comme on le dit. Et là, le seul problème aujourd'hui, c'est vraiment le tourisme qui est quasi inexistant, qui est mort pour le moment, on peut le dire, parce que 60% de l'économie de Tombouctou repose sur le tourisme. Vous savez que le tourisme est un domaine quand même transversal. Il y a beaucoup, par exemple, l'artisanat, le commerce, tous ces domaines-là s'attachent quand même, se rattachent au tourisme. Donc si aujourd'hui le tourisme n'est pas là, les hôtels sont fermés. Donc c'est vraiment un coup dur à l'économie de Tombouctou. Et par exemple, les guides touristiques qui étaient à Tombouctou, il y a des guides touristiques qui prenaient en charge des dizaines de personnes. Et aujourd'hui, ils se sont convertis en d'autres métiers. Et voilà, c'est un véritable problème, un manque à gagner pour la ville. Mais la ville se relève petit à petit. Et comme on aime le dire, peut-être ça fait aussi, cela fait partie aussi des mystères de Tombouctou. Comme on l'a dit, Tombouctou est une ville un peu mythique, un peu mystique, un peu mystérieuse. Et on ne peut pas vivre assez longtemps pour saisir ces mystères. C'est le jour où on va commencer à saisir les mystères qu'on va mourir. Donc voilà.
Alors ben merci, parce que c'est un beau message d'espoir, le fait que Tombouctou se reconstruise. J'espère que le tourisme reprendra un jour. Malheureusement, je crois que dans tous les pays du monde, comme en France, les ministères des Affaires étrangères nous interdisent formellement d'aller dans cette zone qui reste très dangereuse pour les Européens, pour les Occidentaux. Mais on espère très fortement que ça va très rapidement changer.
On l'espère.
Merci beaucoup, Al-Husseini.
Okay. C'est moi qui vous remercie.
Kobena sababu Usababu nyuma manapa Ijando dunyana Dunyani kono Kobena sababu Usababu nyuma manapa Ijando dunyana Wanu bebala la sunitere Wanu gafika irwa Vidote irwa la hakele abe yorobera Lube yelela ama Wanu beka sirango lube yelela ama Duniani kono kobena sababu Ko sababu nyuma manapo ijando duniana Duniani kono kobena sababu Ko sababu nyuma manapo ijando duniana Bebara la sunitere Wanu gafika yiriwa Vidonte yiriwa la hakele abe yorobera Wanu beka sirango lube yelela ama Wanu beka sirango lube yelela ama Dunu ya wapuga Bumfaya sabab Sabab song sawa iwe yari tegi Dunu ya wapuga, boom fire sabab, dunyele foam dawa, sabab song sawa yewe yari tegi dunya yele. Le destin de l'être vient de soi, wo 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 wo. Le futur c'est le passé du présent, yeah, yeah. Tout ce que tu as semé, tu le retrouveras dans ta vie. Tu as semé la haine, tu récolteras la haine. Tu as semé l'amour, tu retrouveras l'amour. Tu as planqué de l'or, tu récolteras la guerre dans ta vie. Tu as semé du riz, tes enfants auront à manger. Dunu ya ni kono, kobena sababu. Ko sababu nyuma manapa. Dunu yana sababu dunu yami kono kobena sababu yana sababu sababu nyuma manapo ijando dunu yana sababu wanu sababu wolukera president ye wanu sababu wolukera meri ye ayo pote antamana
Kananyina Couleur FM, vous êtes toujours à l'écoute du magazine Espace Public où nous continuons notre voyage au Burkina Faso. Merci à Alousaini Aladji, le directeur de Radio Djamana à Tombouctou, pour son témoignage poignant. Les risques pris par ses collègues et lui au Nord-Mali forcent le respect de tout journaliste. Nous venons par ailleurs d'écouter Djakassa, le chanteur du Burkina qui interprétait Sabatou. Retour maintenant à Bobo Dioulasso, c'est dimanche et c'est jour d'élection municipale. Kani, le rédacteur en chef de l'Express du Faso, un quotidien national, est sur le pied de guerre.
Eh hey, bonjour Kani.
Oui, bonjour.
T'es rédacteur en chef de l'Express du Faso.
Exactement.
C'est un quotidien national.
Oui.
Et
mais,
là, aujourd'hui...
basé à Bobo Dioulasso, la deuxième ville.
La deuxième ville du pays, ouais, après Ouaga.
Oui.
Et aujourd'hui, c'est jour d'élection.
Oui.
Municipale.
Exactement.
Et donc, t'es sur le pont depuis ce matin.
Oui, exactement. Depuis ce matin, c'est vrai que je n'ai pas encore fait le tour de la ville, mais les échos que j'ai à travers le réseau que j'ai mis en place, le réseau de ça va. Le réseau que j'ai mis en place, les journalistes que j'ai déployés sur le terrain, me permettent de savoir que effectivement, les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 6h. Malheureusement, il n'y a pas d'affluence partout, pratiquement partout. Ça me permet aussi de savoir que, à travers mon réseau, qu'il y a quelques incidents tout de même, même s'ils sont mineurs, mais qui peuvent porter quand même un coup. Un certain nombre au déroulement du scrutin. Quand vous prenez trois communes déjà où il n'y aura pas d'élection, pas du tout, et une commune où, dans laquelle on a déjà pris quelqu'un qui a 42 cartes d'électeurs sur lui, et une autre commune où il y a un bureau de vote qui est installé sous un arbre, alors vous comprendrez que il y a des frictions un peu partout.
Les trois communes où il n'y a pas d'élection, c'est celles où les bureaux de vote ont été cassés cette nuit, c'est ça?
Exactement, exactement. Mais il y a une autre commune où une quatrième commune depuis hier nuit où des militants d'un parti, le MPP surtout, sont allés demander de déplacer un bureau de vote du lieu habituel où il a toujours existé, était déposé. Donc ça pose un problème. Et jusqu'à présent, à l'heure où je parle, une solution n'est pas encore trouvée. Donc ça veut dire qu'on suit de très près les élections.
Donc demain, dans l'Express du Faso, on va avoir la couverture complète de tout ça?
C'est ce que je crois, parce que nous sommes en train de travailler et au fur et à mesure que les élections se déroulent, moi je fais le fil conducteur, c'est-à-dire les fils des événements qui sont en train de marquer ces élections-là, pour permettre à nos lecteurs, dès demain, d'avoir leurs différents reportages qui seront dans tous les lieux où ils ont été déployés. Et effectivement, pour ce qui nous concerne spécialement, c'est Bobo, la ville où nous sommes. Pour le moment, depuis ce matin, je n'ai pas d'éléments pour dire qu'il y a un incident quelconque dans la ville, ni dans la province, encore moins dans la région. Donc tout se passe normalement et demain, nos lecteurs seront servis.
Bah, jusqu'ici, tout va bien. Merci beaucoup, Kani. On ne va pas vous embêter plus longtemps parce qu'il y a du boulot aujourd'hui.
Je vous en prie.
Je ne voudrais pas terminer ce petit voyage radiophonique au Burkina sans m'éloigner du domaine journalistique et sans vous faire rencontrer ces femmes que j'ai croisées à Noumoundara, sur la route de Banfora, à côté de la frontière ivoirienne. C'est un petit village à côté du sanctuaire de Tiefo Amoro, un grand guerrier qui s'était opposé à la colonisation. Ces femmes ont pris leur village, leur communauté, leur destin en main et produisent désormais en coopérative des produits alimentaires ou cosmétiques issus du karité ou du néré. Il y a de belles rencontres et celle-ci en était une vraie.
Oui, bonsoir. Moi, c'est Madame Ouattara Diakala. Je suis la présidente du groupement Sabal Kanyi de Noumoundara.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce groupement?
Le groupement Sabal Kanyi, c'est un groupement qui a été créé depuis en 1996. Depuis en 1996, le groupement travaille. Le groupement, au commencement, le groupement faisait des chants collectifs.
Des chants?
Des chants collectifs.
C'est-à-dire?
On faisait du chant de maïs, chant d'arachide, chant de sorgho. Les femmes se groupaient ensemble.
Alors c'est des femmes?
C'était des femmes. On se groupait ensemble, on fait nos chants collectifs ensemble. Après la récolte, on met ce qu'on a gagné, on met dans les magasins. Au moment, il y a une femme qui a des difficultés dans sa famille, elle peut aller dans les magasins, prend ces forfaits-là avec un prix moins cher plus que les marchés, et se débrouille dans sa famille.
Donc voilà, c'est un système qui permet à la communauté de s'entraider, d'avoir de la solidarité.
Et puis maintenant, si on a des fonds aussi, on paie aussi ajouté pour se dépendre. Après, le groupement a été comme ça. En 2003, on a été reconnu par un projet qui s'appelait PAMER, qui est venu nous soutenir, nous prendre, faire des formations pour produire. Comme on a vu dans notre localité, il y a les noix de karité. On est venu nous prendre ça, faire des formations pour produire du beurre plus que ce que nous on produisait. La méthode qui était une méthode meilleure, plus que ce que nous on faisait pour nos grands-mères. Bon, donc maintenant, il y a une méthode qui est vraiment impeccable.
Pour faire du beurre de karité.
Pour faire du beurre de karité de bonne qualité, consommable et puis transportable aussi à l'extérieur.
D'accord. Et donc pour des cosmétiques pour...
Oui, on faisait les pommades, les savons liquides aussi, les pommades de corps et puis la consommation.
Très bien. Et après le karité, vous êtes passé au
Après le karité aussi, comme notre région aussi, ce sont des fruits, on s'est lancé dans les grains de néré. Actuellement, vous êtes venus nous trouver en train de décortiquer les grains de néré. On se groupe ensemble, décortiquer les grains de néré. On pile, on gagne la farine, on peut manger, on donne à nos animaux les déchets. Et puis maintenant, on fait une production de soumala.
Qu'est-ce que c'est le soumala?
Le soumala, c'est le magie des Africains. Puisqu'avant, les magies qui magie, on ne savait pas ça. C'était les soumala que nos mamans mettaient dans leurs sauces.
D'accord, c'est comme une épice.
Oui, ouais. Les soumala, c'est quelque chose qui est naturel. Puis.
Et alors le néré, c'est un arbre?
Oui, le néré, c'est un arbre comme les karité. Le néré commence à partir du mois d'avril, on commence à décortiquer le néré.
D'accord. Alors là, on voit, c'est des grandes cosses.
Oui.
Et puis, il y a des dizaines de femmes là qui les décortiquent et qui s'assiedent ensemble. Elles causent ensemble et puis en même temps, elles travaillent.
Oui, on cause. C'est notre groupement là comme ça.
Et ça permet du coup à la communauté de se relier.
De se relier.
Et puis de faire une économie.
Oui.
Et ça permet le développement aussi un petit peu du village.
Oui, ça aide le développement du village.
Ça aide tout le monde.
Oui. Avec ça, là, les femmes là, elles s'entraînent. On fait les sensibilisations. On fait les causeries. Oui.
Les sensibilisations à quoi?
Des sensibilisations à la planification familiale.
Ouais, c'est important. Donc finalement, il y a de l'économie, il y a de l'activité, et puis il y a de l'éducation aussi.
Il y a l'éducation, oui.
De tout le monde.
Voilà. On parle aussi pour les VS, tout. On parle de tout ça. Pour que les femmes là savent comment s'entretenir. Faire la sensibilisation, prendre l'air sans contrôler si elles sont en bon état. Et puis aussi pour le col de l'utérus aussi, on parle de tout ça. Les sensibiliser, aller à la maternité, de se contrôler si elles sont en bon état.
C'est très important. Et c'est vous qui avez eu toutes ces idées-là?
Oui, on a toutes ces idées-là.
Mais vous
Oui. Oui.
Bien. Et alors pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font les hommes?
Les hommes aussi. Ici, vraiment, je peux dire tous les hommes là, pour se marier maintenant, tout le monde part prendre son sang, faire des analyses.
Bien.
La ville est devenue comme ça, comme c'est compliqué, chacun doit se chercher.
C'est vraiment.
Et puis les mariages forcés aussi, il n'y a pas ça.
Il n'y a pas ça.
Il n'y a pas ça, c'est tout.
Les femmes se prennent en main.
Oui. Ouais. La circoncision aussi, là-bas.
C'est fini.
C'est fini. Dans notre village, il n'y a pas ça.
Bien, grâce à cette éducation.
Oui, grâce à toutes ces éducations, grâce à la collaboration des femmes, puisque nous, on se promène, on fait des formations ailleurs, à des groupements, à des réunions, toujours. On nous appelle à Péné pour nous sensibiliser les femmes, sensibiliser les jeunes filles, comment, même pour les enfants même, pour les soigner même, on parle de tout ça.
Et comment ça vous est venu, toutes ces idées?
Toutes ces idées-là nous... Oui, c'est pour que... Toutes ces idées-là sont venues pour que vraiment la femme soit au milieu réel, à l'aise. Si la femme n'est pas à l'aise, vraiment, la famille est toujours fatiguée.
Évidemment. Et puis, vous êtes aussi dans l'élevage, vous nous avez dit?
Oui, ouais. Tout ça, j'ai fait ça avec les Fapasui.
Avec
FAPASPE.
Qu'est-ce que c'est?
C'est un projet aussi qui fait l'élevage. J'ai travaillé avec ça aussi.
C'est un projet d'État?
Oui. J'ai travaillé avec ça aussi. J'ai fait l'élevage, des poulailles locales.
Vous avez même une couveuse?
Oui, depuis en 2009, je suis la fusion. Donc ça fait déjà 6 ans que je suis dans l'activité d'élevage. Dans les berges de karité, je suis à ma 13e année. J'ai fait la production de berges de karité au pont de Louis Soumara. Je peux dire, c'est en 2015 je faisais les sous-marins, mais ce n'était pas les sous-marins qui est vraiment à norme. C'était la traditionnelle. Maintenant, c'est l'amélioration.
C'est la couveuse?
C'est là.
Alors là, il y a beaucoup d'œufs, des dizaines d'œufs qui sont dans une couveuse. Et tout ça, ça va donner des petits poussins. Ouais. Et alors avec le thermomètre?
Oui.
Il faut que ce soit à 35 degrés.
Oui, pour contrôler la température. Puisqu'il y a un thermostat.
38 degrés.
Oui, il y a un thermostat. Une fois que ça se chauffe seulement, ça se coupe.
D'accord.
Voici il y a quelques pintades qui sont sortis.
C'est des pintades? Ah, ils sont tout petits.
Maintenant, le poulailler est à 300 mètres. Donc là-bas, il y a les grandes là-bas.
D'accord. Et ça vous permet de faire de l'élevage pour toute la communauté, là encore?
Oui.
Voilà, fin de ce voyage au Burkina Faso, un pays ami, très ami de la France malgré les relations coloniales passées. Un pays qui mérite le développement qu'on lui promet depuis trop longtemps. Les actions françaises de coopération y sont nombreuses. Le Burkina est en route vers sa démocratie. Souhaitons que cette route soit bonne et peu tortueuse. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent été, d'excellentes vacances. Je vous retrouverai avec grand plaisir en septembre pour de nouveaux numéros d'Espace Public.